When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Section 5 de Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 30 à 47.
Chapitre 30. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit émue? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qui m'ait pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égaré. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ses paroles m'ont semblé inutiles et je suis resté indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit « Mon fils ». Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» « Oui, mon père, lui ai-je répondu. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine ?»« Volontiers, lui ai-je dit. Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors, il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant. « Eh bien ?» Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levé aussi. « Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé « Quand reviendrai-je ? Je vous le ferai savoir. » Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même, un impie. « Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie. » Et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fût de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous. Emphatique où il eût été besoin de profondeur, plat où il eût fallu être simple. Une espèce de sermon sentimental et d'élégie théologique. Ça et là, une citation latine en latin, saint Augustin, saint Grégoire, que sais-je? Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, de repasser un thème oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment serait-il autrement? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison. Son état est de consoler et d'exhorter, et il vit de cela. Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste, parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux, bien poudrés à blanc, ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relit la page. Et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui. Et qu'il est un lieu commun pour eux. Oh, qu'on m'aille donc, au lieu de cela, chercher quelque jeune vicaire, quelque vieux curé, au hasard, dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre, et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir. Il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors qu'on me l'amène tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux. Il pleurera et nous pleurerons, et il sera éloquent et je serai consolé et mon cœur se dégonflera dans le sien. Il prendra mon âme et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre, comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions? J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon, et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais avoir besoin. Une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger. Mais, à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide.
Chapitre 31. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi, et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt « c'est cela, tantôt, ce n'est pas cela ». J'ai demandé au gendarme qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant, avec sa voix éclatante, « Mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter, « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevron, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là comme une des pierres qu'il mesurait. Chapitre 32. Et puis il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, ingrat égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé, homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte, assis devant la table, je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup frappé sur mon épaule m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seul. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous bon cœur ?»« Non, lui ai-je dit. » La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant, « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. »« Pourquoi non ? » ai-je répliqué. « Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ?»« Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. » « Deux mots seulement, voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûte à rien, est-ce que vous ne le feriez pas ?» J'ai haussé les épaules. « Est-ce que vous arrivez de Charenton ? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un ?» Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. « Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune, tout cela me sera venu de vous. Voici. » Je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère. Mon cheval est à moi et me ruine. Oh, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûr. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui.
Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir, qu'est-ce que cela vous fait? Me donnez 3 numéros, 3 bons, hein? Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir, si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. « Écoute, lui ai-je dit, en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir. Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions, à une condition. » Il ouvrait des yeux stupides. « Laquelle, laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. » « Si ce n'est que cela, » s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait, je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. « Ah, ça, ce n'est pas pour sortir d'ici. » J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. « Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. » Il m'a interrompu. « Ah, bien non, tiens, et mes numéros. Pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez mort. » Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. Chapitre 33. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus, et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent, un à un, doux, calme, riant, comme des îles de fleurs, sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier, rieur, effray, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuse que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné, il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Pepa, nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer, et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pepita la plus belle pomme du pommier, je la frappais pour un nid d'oiseau, elle pleurait, je disais « c'est bien fait », et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras, et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas, elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons ! » Je la vois encore, elle était tout en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pepa redevint Pepita. Elle me dit « Courons !» Et elle se mit à courir devant moi, avec sa taille fine comme le corset d'une abeille, et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fuyait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine, je la pris par la ceinture du droit de victoire et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas, elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. « Asseyez-vous là, me dit-elle, il fait encore grand jour, lisons quelque chose. Avez-vous un livre ? » J'avais sur moi le tome second des voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard, je me rapprochai d'elle, elle appuya son épaule à mon épaule, et nous nous mîmes à lire chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. Avez-vous fini ? Me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent, et nos bouches, tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman, » dit-elle en rentrant, « si tu savais comme nous avons couru !» Moi, je gardais le silence. « Tu ne dis rien, » me dit ma mère, « tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie.
Chapitre 34.
Une heure vient de sonner, je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre et le mien. Si on lit un jour mon histoire après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérables lois et misérables hommes, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures, et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'errais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35. En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais de la Grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Chapitre 36. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds, quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son battant qui pèse un millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leurs plans inclinés étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte à vol d'oiseau la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta, une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour, le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser, je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoises en pente. De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles et sous les yeux ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau, et autour de moi je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. Chapitre 37. L'hôtel de ville est un édifice sinistre, avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses mille croisées, ses escaliers usés par les pas, ses deux arches à droite et à gauche, il est là de plein pied avec la Grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noire qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Chapitre 38. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45, et je serai guéri. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là à souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier, et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal ?» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne » Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde? La douleur est escamotée. Horreur! Chapitre 40. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours « Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Tout est autour de lui amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant, et les fronts les plus fiers ploient. Il n'y a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres, où tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi. Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroulât, pour que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Et il est bon, il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en saura rien. Chapitre 41. Eh bien donc, ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachant ce qu'elle nous veut. Retournons-la en tous sens, épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être, comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté çà et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par places des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ombre dont les couches épaisses pèseront sur eux. et au loin, dans le fond, de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu, et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé? Que choisissent-ils? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Ah, un prêtre qui sache cela! Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. Je fais un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait
avec son enfant.
Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement, un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi, nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie. Mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or, sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous en fîmes le tour. Je marchais le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur, comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonné, je tirai plus fort. Elle céda brusquement et nous découvrit une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai « Qui êtes-vous ? » Elle ne répondit pas, ne bougea pas et resta les yeux fermés. Mes amis dirent « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir. Elle n'aura pu fuir et s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre. Elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille. Elle est restée muette, comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit « Mettez-lui la bougie sous le menton. » Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit « Ah, enfin, répondras-tu, vieille sorcière, qui es-tu » L'œil s'est refermé, comme de lui-même. « Pour le coup, c'est trop fort, » ont dit les autres. « Encore la bougie, encore, il faudra bien qu'elle parle. » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors, Elle a ouvert ses deux yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti trois dents aiguës s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ?» lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi une heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine qui vous attend.
Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât.
Oh ! Ai-je crié, ma fille ? Qu'on m'amène, ma fille ! » Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère ? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire. Mais je tends de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. « Marie, ai-je dit, ma petite Marie !» Je la serrai violemment contre ma poitrine, enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites du mal, monsieur » m'a-t-elle dit. « Monsieur, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre? Quoi? Déjà plus peur, être condamnée à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes, papa? Et pourtant, l'entendre de cette bouche encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit, en joignant ses deux petites mains dans les miennes. « Est-ce que tu ne me connais point ?» Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu « Ah, bien non !»« Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis ?»« Si, a-t-elle dit. Un monsieur ?» Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et la voir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut, parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié. J'ai failli la laisser tomber. Mort, disais-je? Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisée au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'était assez de cela, je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah ! M'a-t-elle dit. J'ai ajouté, « Veux-tu que je sois ton papa ?» L'enfant s'est détourné. « Non, mon papa était bien plus beau. » Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant, « Vous me faites mal avec votre barbe. » Alors je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, » a-t-elle répondu, « je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons. » « Lis un peu, lui ai-je dit, en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours, voyons, lis. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. « Ah, R, 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 E, T, Ré, Arré. » Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou, il me coûtait plus cher, à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée, elle pleurait presque. Tout à coup elle m'a dit, « Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne, emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée.
À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire.
Chapitre 44.
Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de grève qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui vient pour moi y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Chapitre 46. Ma petite Marie, on l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47.
Mon histoire.
Note de l'éditeur. On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue.
Fin de la section 5. Section 6.
De Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan.
Chapitre 48-49.
Chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville, ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là, et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges, avec leur triangle noir au bout, dressés entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Voici, 3 heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes, déformés. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets, à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats. Puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour on parlait à voix basse, il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais, à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre, qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. « La toilette du condamné », a répondu l'autre. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenés derrière mon dos et je sentis les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste, seul lambeau qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment. Puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal ?»«
Ces bourreaux sont des hommes très doux. » La foule hurlait plus haut, au dehors.
Le gros homme, au visage bourgeonné, m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit, de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. » Alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds, au moyen d'une corde fine et lâche, qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. » Les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levé, j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissaient, comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois à travers la pluie les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails. En face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette auquel s'appuyait une roue d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait trois pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « le voilà !» a crié la foule. « Il sort, enfin !» Et les plus près de moi battaient des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier. « Bonjour, monsieur Samson !» criaient des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien !» a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi, gendarmes devant, gendarmes derrière, puis de la foule et de la foule, une mer de têtes sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. « chapeau bas !» criaient mille bouches ensemble. « Comme pour le roi !» Alors j'ai ri, horriblement aussi, moi, et j'ai dit au prêtre, « Eux, les chapeaux, moi, la tête !» On allait au pas. Le quai aux fleurs embaumait, ces jours de marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets dont les entresols étaient pleins de spectateurs, heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête « Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier « Qui veut la mienne ?» Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle. Et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allait reformer plus loin sur d'autres points de mon passage.
En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons, à une tour noire isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais de monstres de pierre assis de profil. Je ne sais pourquoi, j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. « Saint-Jacques, la boucherie, » a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait. Dans la brume, et malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignée, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir, dernière vanité. Alors, je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. « Ayez pitié de moi, » ai-je dit, « oh mon Dieu !» Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait, puis tout à coup je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements, et mouillait la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils ?» m'a demandé le prêtre. « Oui, » ai-je répondu. « Hélas, pas seulement de froid. Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeunes. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes, aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention aux prêtres et aux crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence, mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée, et d'avance comme morte. J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde, et qui devait bien voir. Et la charrette allait, allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves, ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'est arrêtée subitement, et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. « Courage » a-t-il murmuré. Alors, on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh, c'était la réalité. Je me suis arrêté comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire, ai-je crié faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Chapitre 49. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. « Ma grâce, ma grâce » ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible, à mon âge, de mourir ainsi. des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi ?
Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, une minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul, seul, avec deux gendarmes. Oh, l'horrible peuple, avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce... Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures.
Fin de la section 6. Section 7 de Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan.
Note. Nous donnons ci-jointe, pour les personnes curieuses de cette sorte de littérature, la chanson d'argot avec l'explication en regard, d'après une copie que nous avons trouvée dans les papiers du condamné et dont ce fac-similé reproduit tout, orthographe et écriture. La signification des mots était écrite de la main du condamné. Il y a aussi dans le dernier couplet deux vers intercalés qui semblent de son écriture. Le reste de la complainte est d'une autre main. Il est probable que, frappé de cette chanson, mais ne se la rappelant qu'imparfaitement, il avait cherché à se la procurer, et que copie lui en avait été donnée par quelque calligraphe de la geôle. La seule chose que ce fac-similé ne reproduise pas, c'est l'aspect du papier de la copie, qui est jaune, sordide et rompu à ses plis. Note de cette édition. Le manuscrit du dernier jour d'un condamné. Après le titre, reproduit page 585 et daté décembre 1828, vient immédiatement la préface de l'édition originale, préface datée janvier 1829. En travers de la marge, on peut lire les indications suivantes pour l'imprimeur. Ceci est la préface du condamné. L'imprimé en caractère plus gros que le texte. Le faux titre, 2 pages, le titre, 2 pages, la préface, 2 pages, un autre faux titre qui le sépare du texte. 2 pages. En tout, 8 pages. Les feuillets suivants contiennent la préface publiée en tête de l'édition Randuel en 1832. Mais nous devons signaler dans le manuscrit de cette seconde préface une particularité. Les deux premiers feuillets, s'arrêtant au milieu de l'alinéa « Nous l'avouerons cependant si jamais révolution » voir page 590, ces deux premiers feuillets seuls ont trait directement au roman et le nomment. Le reste de la préface est un réquisitoire contre la peine de mort et pourrait fort bien être détaché de la préface sans qu'il y parût. En effet, à partir du troisième feuillet, nous nous trouvons en présence d'un manuscrit complet, intitulé « Fragments sur la peine de mort ». Ce titre est suivi de 2 lignes de points et commence ainsi « Nous venons de dire que l'échafaud est le seul édifice » Ce texte se trouve dans les dernières lignes du feuillet précédent. Une indication en tête prouve que ce fragment a été publié isolément. Envoyez chercher le reste demain jeudi vers 6 heures après-midi. Enfin, sur la chemise qui séparait ce manuscrit des 2 premiers feuillets, on lit, écrit de la main de Victor Hugo, l'adresse de l'imprimeur à qui il envoyait le fragment sur la peine de mort, rue d'Anjou, 6. Enfin, ce fragment est signé, contrairement aux préfaces des autres œuvres, et daté 15 mars 1832. Nous avons établi un rapprochement entre ces diverses remarques et le brouillon suivant, retrouvé dans les papiers de Victor Hugo. Je m'empresse, monsieur, de répondre aux bienveillantes sollicitations que vous m'adressiez hier. Je n'ai jamais vendu de manuscrit si mince qu'il fût, moins de 500 francs. Mais j'en ai quelquefois donné, et je puis le faire encore. Si vous tenez toujours à ce fragment que vous me faisiez l'honneur de me demander, vous l'aurez pour 500 francs ou pour rien. Choisissez. Quel que soit votre choix, j'y souscrirai avec plaisir. Votre bien cordialement dévoué. L'écriture est conforme à celle du manuscrit daté 15 mars 1832. Nous avons donc tout lieu de croire que Victor Hugo, après la publication du fragment, l'a utilisé en le faisant précéder de 2 pages pour sa nouvelle préface du dernier jour d'un condamné. L'édition de 1832 est enregistrée dans le journal de la librairie du 31 mars. Quelques remaniements dans le manuscrit d'une comédie à propos d'une tragédie, publié en tête de la 3e édition du dernier jour d'un condamné. De nombreux développements en marge et un petit feuillet entier ont été ajoutés. Pour le roman lui-même, dont la première page est datée 14 octobre 1828, on compte 53 feuillets, écrits au recto et au verso et paginés par lettres alphabétiques. Mentionnons au fur et à mesure les principaux ajoutés. Chapitre 9, écrit sans doute en revisant au bas du feuillet qui termine le chapitre précédent. Chapitre 12, entièrement ajouté en marge. Chapitre 13, intercalation de quelques détails sur l'entrée des forçats dans la cour de Bicêtre. Chapitre 27, 28 et 37, entièrement ajoutés en marge. Chapitre 40, entièrement ajouté sur les épreuves, n'existe pas dans le manuscrit. Chapitre 45, ajouté en marge. Le dernier feuillet que nous reproduisons, page 739, est daté nuit du 25 décembre 1828, 3h du matin. Note de l'éditeur. 1. Historique du dernier jour d'un condamné. À la fin de l'année 1828, Victor Hugo écrivit « Le dernier jour d'un condamné ». Madame Victor Hugo a raconté d'une façon très précise les origines de ce petit livre. M. Victor Hugo s'était trouvé en 1820 sur le passage de Louvel allant à l'échafaud. L'assassin du duc de Berry n'avait rien qui éveillât la sympathie. Il était gros et trapu, avait un nez cartilagineux sur des lèvres minces et des yeux d'un bleu vitreux. L'auteur de l'ode sur la mort du duc de Berry le haïssait de tout son ultra-royalisme d'enfant. Et cependant, à voir cet homme qui était vivant et bien portant et qu'on allait tuer, il n'avait pu s'empêcher de le plaindre, et il avait senti sa haine pour l'assassin se changer en pitié pour le patient. Il avait réfléchi, avait pour la première fois regardé la peine de mort en face, et s'était étonné que la société fît au coupable, et de sang-froid, et sans danger, précisément la même chose dont elle le punissait, et avait eu l'idée d'écrire un livre contre la guillotine. Ce récit est scrupuleusement exact. Victor Hugo racontait volontiers que sa haine contre la peine de mort datait de l'époque où il n'avait pas 20 ans. Il fallait que cette haine fût bien enracinée dans son jeune cerveau pour qu'elle se manifestât à une heure où son royalisme lui eût conseillé de ne pas la combattre. Il attendit cependant plusieurs années avant d'écrire ce livre. Madame Victor Hugo poursuit, à la fin de l'été de 1825, une après-midi comme il allait à la bibliothèque du Louvre, il rencontra M. Jules Lefebvre, qui lui prit le bras et l'entraîna sur le quai de la ferraille. La foule affluait des rues, se dirigeant vers la place de Grève. « Qu'est-ce donc qui se passe ? » demanda-t-il. « Il se passe qu'on va couper le poing et la tête à un nommé Jean-Martin qui a tué son père. Je suis en train de faire un poème où il y a un parricide qu'on exécute. Je viens voir exécuter celui-là, mais j'aime autant n'y être pas tout seul. » L'horreur qu'éprouva Victor Hugo à la pensée de voir une exécution était une raison de plus de s'y contraindre. L'affreux spectacle l'exciterait à sa guerre projetée contre la peine de mort. Au pont au change, la foule était si épaisse qu'il devint difficile d'avancer. Messieurs Victor Hugo et Jules Lefebvre purent cependant gagner la place. Les maisons regorgeaient de monde. Les locataires avaient invité leurs amis à la fête. On voyait des tables couvertes de fruits et de vins. Des fenêtres avaient été louées fort cher. De jeunes femmes venaient s'accouder à l'appui des croisées, verre en main et riant aux éclats ou minaudant avec des jeunes gens. Mais bientôt la coquetterie cessa pour un plaisir plus vif. La charrette arrivait. Le patient, le dos tourné au cheval, au bourreau et aux aides, la tête couverte d'un chiffon noir rattaché au cou, ayant pour tout vêtement un pantalon de toile grise et une chemise blanche, grelottait sous une pluie croissante. L'aumônier des prisons, l'abbé Montès, lui parlait et lui faisait baiser un crucifix à travers son voile. M. Victor Hugo voyait la guillotine de profil, ce n'était pour lui qu'un poteau rouge. Un large emplacement gardé par la troupe isolait l'échafaud. La charrette y entra. Jean-Martin descendit, soutenu par les aides.
Puis, toujours supporté par eux, il gravit l'échelle. L'aumônier monta après eux, puis le greffier, qui lut le jugement à haute voix. Alors le bourreau leva le voile noir, fit apparaître un jeune visage effrayé et hagard, prit la main droite du condamné, l'attacha au poteau avec une chaîne, saisit une hachette, la leva en l'air. Mais M. Victor Hugo ne put en regarder davantage. Il détourna la tête et ne redevint maître de lui que lorsque le « ah » de la foule lui dit que le malheureux cessait de souffrir. Nous avons reproduit cette scène en entier. L'abondance et la précision des détails démontrent que Victor Hugo avait rapporté de ce spectacle une horrible vision, dont sa femme avait été l'écho fidèle. Madame Victor Hugo termine ainsi. « Monsieur Victor Hugo revit la guillotine un jour qu'il traversait, vers 2 heures, la place de l'Hôtel de Ville. Le bourreau répétait la représentation du soir. Le couperet n'allait pas bien, il graissa les rainures, et puis il essaya encore. Cette fois, il fut content. Cet homme qui s'apprêtait à en tuer un autre, qui faisait cela en plein jour, en public, en causant avec les curieux pendant qu'un malheureux homme, désespéré, se débattait dans sa prison, fou de rage, ou se laissait lier avec l'inertie et l'hébétement de la terreur, fut pour M. Victor Hugo une figure hideuse, et la répétition de la chose lui parut aussi odieuse que la chose même. Il se mit le lendemain même à écrire le dernier jour d'un condamné. On a pu suivre dans le roman, étape par étape, l'agonie morale du condamné dans sa prison. Cette psychologie profonde et minutieuse à la fois, Victor Hugo était bien forcé de ne la devoir qu'à sa propre imagination. Mais on voit, par les précédentes citations, que, chaque fois que le poète pouvait se documenter, il n'en perdait pas l'occasion, si pénible que puissent être pour lui ces horribles spectacles. Un autre détail donne la mesure de la conscience que Victor Hugo apportait à voir et à juger par lui-même les faits qu'il se promettait d'analyser. Ainsi, il fait raconter par son condamné anonyme les préparatifs de départ des forçats pour Toulon, à l'heure où on les ferre dans la prison de Bicêtre, où on leur rive les colliers pesants au cou, reliés les uns aux autres par une chaîne, et où enfin on les place sur des charrettes dos à dos, séparées par la chaîne commune. Victor Hugo donne les détails les plus complets sur cette lugubre opération. C'est qu'en effet, il l'avait suivi. Dans le journal de Paris du 3 février 1829, on lit « Ce départ si curieux est peint d'après nature. Il est facile de voir que M. Victor Hugo assistait à celui de la dernière chaîne, car on retrouve dans son récit toutes les circonstances qu'on a pu lire dans notre dernière relation. On raconte même, au sujet de sa visite à Bicêtre, une anecdote qu'on me permettra de rapporter. M. Victor Hugo s'y rendit 2 jours de suite pour assister au ferrement, puis au départ. Le second jour, l'un des forçats, le montrant du doigt, dit à son camarade « Tu vois bien ce monsieur ? Eh bien, il paraît qu'il a plaisir à nous voir, car il était hier parmi les curieux. » « Non, répond le camarade, tu te trompes. Je te dis que c'est lui, reprend vivement le premier forçat. Je le reconnais parfaitement à sa chaîne de montre. » Que Victor Hugo ait assisté à ce spectacle, cela n'est pas douteux. Quant à l'anecdote, le journaliste n'a-t-il pas voulu faire un sinistre rapprochement entre cet homme à la lourde chaîne portant son regard sur une chaîne de montre? Peut-être n'y a-t-il là qu'une simple coïncidence qui appelle cette lugubre comparaison. Victor Hugo avait lu à plusieurs amis ce petit livre. Édouard Bertin, un des familiers du poète, en parla à l'éditeur Gosselin, qui réclama aussitôt l'œuvre. Gosselin la lut. On se rappelle que dans son livre, après l'entrevue du condamné avec sa fille, sa petite Marie, Victor Hugo fait dire au prisonnier « Il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. » Le chapitre suivant, intitulé « Mon histoire », ne contient que cette note, note de l'éditeur. On n'a pas encore retrouvé les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire? Il était tard quand cette pensée lui est venue. Gosselin demanda à Victor Hugo, dans l'intérêt de la vente, de retrouver les feuillets que l'auteur supposait avoir été perdus. Bref, de raconter l'histoire du meurtre. L'œuvre perdait, grâce à cette singulière combinaison commerciale,
toute sa valeur. Au lieu d'avoir un caractère impersonnel, elle prenait l'aspect d'un vulgaire fait divers. Victor Hugo adressa à Gosselin une lettre un peu dure, dans laquelle il déclara qu'il avait pris pour éditeur et non pour collaborateur. Voilà tout ce qu'on savait. On n'avait pas la lettre, lorsque tout récemment, M. Georges Clarty, dans un article très documenté, donna dans le Figaro le texte de la lettre qu'il tenait de la famille Gosselin et que nous reproduisons intégralement.
3 janvier, soir. Monsieur, la preuve que je ne prends pas en mauvaise part la lettre que vous me faites l'honneur de m'écrire, c'est que j'y réponds. Il me semble seulement que vous n'avez peut-être pas assez réfléchi en l'écrivant. Si vous avez voulu dire que Le dernier jour d'un condamné n'est pas un roman historique, vous avez raison. Je n'ai point voulu faire de roman historique. Notre-Dame de Paris sera le premier, mais il y a plusieurs sortes de romans et l'on pourrait souvent, à mon avis, les classer en 2 grandes divisions. Romans de faits et romans d'analyse, drames extérieurs et drames intérieurs. René ou Rika Édouard sont de ce dernier genre. C'est un fait simple et nu avec des développements de pensée. Je ne sache pas que ces livres aient eu moins de succès que d'autres.
Il y a surtout 2 ouvrages qu'il est impossible que vous n'ayez pas lus et que je vous présenterai comme offrant une frappante analogie avec mon livre, si son principal mérite à mes yeux n'était pas d'être sans modèle. C'est le journal Autour de ma chambre et la Sentimental Journée de Sterne. Jamais livre, jamais roman ne se sont plus vendus que cela. Jamais on ne s'est avisé de les exclure de la classe des romans. Je vous sais trop intelligent, monsieur, pour insister sur ces choses évidentes. Il me semble donc impossible qu'après un moment de réflexion, vous hésitiez à voir dans Le condamné un roman, et un roman de la nature peut-être la plus populaire et la plus universellement goûtée. Ce n'est donc plus qu'un conseil littéraire que celui que vous voulez bien me donner d'écrire l'histoire du condamné. Il serait beaucoup trop long de vous déduire par une lettre pourquoi je ne suivrai pas votre conseil. Nous en causerons si vous voulez bien, et j'espère vous amener vite à mon avis. Vous devez penser que ce n'est pas sans mûre réflexion que je me suis décidé au parti que j'ai pris. D'ailleurs, vous savez que j'ai, à tort ou à raison, peu de sympathie pour les conseils, et que si j'ai quelque originalité, elle vient de là. Si j'avais écouté les conseils, je n'aurais pas fait Han d'Island. Et j'aurais peut-être eu raison, mais non pour le libraire. Je vous remercie beaucoup cependant du fait pour lequel vous me redressez. Je prendrai des renseignements positifs à ce sujet, et j'y aurai certainement égard. Vous devez aussi avoir mal calculé pour la grosseur du livre. Le manuscrit est un peu plus de la moitié de celui de Bugjargal que j'ai conservé. Il y aura au contraire un fort volume in 12. Je vous dirai en terminant, monsieur, et sans du reste vous en faire un reproche, que la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire est la première de ce genre que je reçois. Jusqu'ici, et c'est à regret que je suis forcé de rappeler cela, les libraires, de ma main, avaient pris sans lire. Je ne leur ai jamais ouï dire qu'ils s'en fussent mal trouvés. J'espère qu'il en sera de même de vous, car je ne vois pas avoir rien fait qui ait plus de chances de vente, et d'autres que moi sont de cet avis. Si cette lettre m'était venue de tout autre, je ne vous cache pas que je n'y eusse point répondu. Mais j'ai voulu vous donner ces explications à vous, monsieur, comme une marque spéciale d'estime et de cordial attachement. Victor Hugo. Post-scriptum. La gravure est très bien. L'édition in 18 des Orientales me paraît imprimée en un caractère bien fin et peu beau. Je voudrais bien causer de tout cela avec vous, ainsi que du prospectus. Il importe de mettre vite Le condamné sous presse si vous voulez qu'il paraisse avant la chambre, ce qui est de la plus haute importance. V.H. Le volume parut le 7 février 1829, sans nom d'auteur en tête des premières éditions. Victor Hugo s'était borné à le faire précéder de quelques lignes. Naturellement, on se livra à la recherche de la paternité. Nombre de suppositions furent mises en avant. Les uns dirent « c'est un livre anglais », les autres affirmèrent qu'il était américain. Victor Hugo publia dans la 3e édition une préface dialoguée, une comédie à propos d'une tragédie, et dès la 5e édition, une longue préface datée du 15 mars 1832 qui contenait une énergique profession de foi contre la peine de mort. Il disait alors que ce livre n'était ni anglais ni américain,
qu'il en avait pris l'idée sur la place de Grève. Il l'avait signé cette fois et avait fait, avec grand duel, le traité dont nous avons déjà parlé. Nous avons retrouvé dans le dossier inédit intitulé « Tate-Pierre » cette note. « Dernier jour d'un condamné, but du dernier jour d'un condamné, inspiré aux classes élevées l'horreur, aux classes inférieures la terreur de la peine de mort. » 1er avril 1832. On ne saurait feuilleter un volume de Victor Hugo, vers ou prose, sans y rencontrer des pages contre la peine de mort. N'est-ce pas dans Hans d'Islande, le premier roman publié, que la curiosité de la foule pour les exécutions est énergiquement flétrie?
Chapitre 68.
Et 60 ans plus tard, Victor Hugo n'implorera-t-il pas la clémence de la reine d'Angleterre pour un condamné à mort? Le dernier jour d'un condamné est la véritable préface dramatique de tous ses plaidoyers en faveur d'une cause dont il devait être et rester l'avocat ardent et convaincu. 2. Revue de la critique. Le plus grand reproche que la critique ait adressé à Victor Hugo, c'est d'avoir écrit un livre d'une effrayante et atroce vérité. Et c'est peut-être là le plus grand éloge. Oui, Victor Hugo a voulu inspirer l'épouvante parce qu'il voulait communiquer à ceux qui le lisaient sa haine de la peine de mort. Il a réussi au moins pour l'épouvante, il a rencontré plus de résistance dans sa propagande pour l'abolition de l'échafaud. 2 des articles que nous reproduisons sont signés d'initiales. J.J. étaient les initiales de Jules Janin, N. l'initiale de Naudier. On ne peut s'empêcher de supposer, en lisant l'article de La Quotidienne, que c'est lui qui a inspiré ce spirituel plagiat de la critique de l'École des femmes que Victor Hugo a intitulé « Une comédie à propos d'une tragédie ». Les expressions les plus significatives du rédacteur de La Quotidienne y sont citées et à peine ridiculisées. Quoi qu'en disent ces deux critiques, devenus par la suite deux admirateurs, Victor Hugo a bien, même pour eux, atteint son but. Il a effrayé, mais il a ému. La Quotidienne, J.J. Ce livre, tout étincelant d'une horrible et atroce vérité, doit mettre à bout le peu d'émotion qui nous reste. Or, ici, le succès ne peut pas justifier un écrivain, le talent ne peut pas le rendre excusable, rien ne peut lui faire pardonner son acharnement à flétrir une âme d'homme, à effleurer la paix d'une nation qui, certainement, après ce qu'elle a vu, devrait se croire habituée à l'échafaud, et qui, en lisant le dernier jour d'un condamné, reculera d'épouvante. Figurez-vous une agonie de 300 pages. Figurez-vous un homme de style et d'imagination et de courage, un poète habitué à jouter avec les plus grandes difficultés de la langue et des passions, se plongeant avec plaisir dans ses longues tortures, interrogeant le pouls de ce misérable, comptant les battements de ses artères, prêtant l'oreille à ce cœur qui se gonfle dans cette poitrine, et ne se retirant de l'échafaud que lorsque sa tête a roulé. Tout ceci n'est-il pas de l'atroce? Et puis, ne s'agit-il pas d'un homme de sang? Que si, par hasard, vous avez essayé un plaidoyer contre la peine de mort, je vous répondrai qu'un drame ne prouve rien. De grâce, vous me faites trop peur et trêve à tous ces tristes efforts. Préservez-nous d'une vérité si nue. Permettez-nous encore de nous sentir hommes quelquefois, c'est-à-dire des êtres assez bien organisés pour être émus par des beautés simples et naturelles, intéressés par une fable riante et jeune, attendris par des récits animés et vivement passionnés. Voyez ce que vous avez fait. Vous êtes allé plus loin que ces modèles en cire, destinés aux amphithéâtres, plus loin que la peinture la plus hardie. Votre livre a fait pâlir en même temps le cabinet de M. Dupont et le pinceau de M. Boulanger. Ou bien, mettez en tête de votre livre cet épigraphe qui l'expliquera très bien, Aigri Somnia. La revue des deux mondes, à Fontanet. À vrai dire, ce n'est pas un roman que le dernier jour d'un condamné, c'est quelque chose de plus haut. C'est un livre à part, un livre dont on n'avait pas l'idée et qu'on n'imitera point. C'est une création qui doit demeurer isolée, unique dans l'art. Après cela, si bon vous semble, et comme le veut bien lui-même l'auteur, nommez l'ouvrage un plaidoyer. J'y consens aussi. Au moins, celui-là n'est point de ceux qu'on déclame au palais. Il n'y a rien là du procureur général ou de l'avocat. C'est tout simplement le réquisitoire d'un homme de génie contre la peine de mort, ce grand crime de la société flagrant depuis tant de siècles. Nouveau journal de Paris,
Léon Pillet. Il y a, dans Le dernier jour d'un condamné, de belles pages, des scènes épouvantablement vraies, d'autres non moins affreuses mais plus attendrissantes, qu'il ne m'a pas été possible de lire sans émotion. Mais à côté de cela, on gémit de retrouver presque à chaque phrase cette malencontreuse manie de pittoresque et cette fâcheuse exagération de sentiments qui viennent, à chaque instant, vous renfoncer les larmes en détruisant toute l'influence de l'illusion. Dans l'ouvrage de M. Hugo, les détails abondent. Ce n'est pas un tableau qu'il nous donne, c'est une narration. Le condamné ne se borne pas à penser. Il écrit jusque sur l'échafaud, jusque sous le coup fatal. Comment peut-on se prêter à une pareille fiction ? Comment M. Hugo n'a-t-il pas gagné en liberté ? Combien ne se serait-il pas senti plus à l'aise si, au lieu de continuer un manuscrit qui devait être interrompu depuis longtemps, il se fût borné à faire penser son condamné, à le faire penser tout haut, comme au théâtre ? L'écrivain reproduit la scène entre la petite fille et le condamné. Retranché de cette scène, l'épisode de la lecture de l'arrêt, qui ressemble trop à une combinaison de mélodrames. Et c'est un modèle déchirant et pathétique. Pourquoi M. Victor Hugo n'écrit-il pas toujours de même ? Est-il pittoresque qui approche de cela ? Journal des débats. N. Rien de ce que fait M. Hugo n'est indifférent pour notre littérature, soit qu'il fasse mauvais, soit qu'il fasse bon. C'est un homme désormais hors ligne, qui en est venu à ce point de renommée où les critiques témoignent mieux que les éloges de son importance littéraire. La première chose dont on s'inquiète quand un livre paraît, c'est de ceci. Pourquoi ce livre ? De notre temps surtout, où tout se pèse par l'utilité, même les plaisirs de l'esprit, cette question est dans toutes les bouches. Aussi, quand l'annonce du condamné apparut dans les journaux, on s'est dit avant de lire « Que nous veut ce condamné ?» Il y avait lieu cette fois à s'intriguer. Les apparences étaient si bizarres. Après avoir lu, beaucoup se demandent encore « Que nous voulait-on ? » À quoi bon cette débauche d'imagination, ce long rêve de crime, de sang, d'échafaud ? Et pourtant l'auteur avait un but. Dès les premières pages, il le fait dire et développer par son héros en très belles phrases. Ce but, c'est de faire horreur de la peine de mort. Si l'on ne s'en souvient plus, la lecture finie, c'est sans doute qu'il a été manqué. M. Victor Hugo a fait son livre dans ce noble dessein, je l'en crois sur parole. Et pendant que les avocats battaient en ruine, sur d'autres points, cette vieille cruauté de notre législation, le poète s'est adressé à l'imagination et au cœur, et il a montré tout ce que l'âme d'un homme a de puissance pour souffrir, tout ce qui peut se passer et s'épuiser de douleur au fond d'un cachot. Cette partie de la question était toute neuve. Elle allait merveilleusement au sombre et énergique talent de Victor Hugo. À présent, si je juge ce roman de peu d'utilité pour les condamnés à mort comme morceau littéraire, j'en admire quelques pages, belles au plus haut degré de poésie et d'éloquence. Quand la vérité s'est rencontrée sous la plume de M. Victor Hugo, elle sort si originale et si bien parée qu'elle a tout l'air d'une création, et je ne sais si on lui saurait plus de gré d'inventer que de remettre à neuf. Sa prose, riche et pittoresque comme ses vers, a pourtant le tort d'être un peu tendu, et chose rare, cette sorte de fatigue qui se fait sentir dans quelques tournures n'ôte pas à la pensée son abondance naturelle, ni au style son mouvement. C'est presque la faute de l'inspiration qui est venue toute fatiguée et laborieuse. Ce sont d'admirables pages, à mon gré, que celles où le condamné pense au roi qui est seul comme lui dans le monde et qui, d'un mot, peut lui faire grâce, et celles où, promenant sa lampe autour des murs de son cachot, il lit à cette funèbre lueur les noms de ceux qui ont été là, comme lui, sous les mêmes verrous, nourris et conservés pour l'échafaud. Et celle où il demande pour l'assister dans ses angoisses un jeune prêtre qui ne se soit pas encore vu face à face avec un condamné à mort et n'ait pas réduit en formules sèches et stériles ces paroles consolantes que la religion murmure jusque sous le couteau à l'oreille de l'homicide. Fin de la section 7. Fin de Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.